Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Ah ouais, 19h03 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant déjà la deuxième heure. Elle est passée vite cette première heure avec Manu Petit qui est complètement cuit. On est avec Soulé Diawara. Ça va, lui, il est à l'eau très bien, tout va bien. Il y a un petit air là, c'est sympa. On est avec Benoît Boutron, on est avec du monde, on est au Flora dans le 9e arrondissement en public, c'est fantastique. On vit la Coupe du Monde. On boit, on mange la Coupe du Monde, vraiment, et encore ce soir avec des sacrés matchs. Hein. Et les États-Unis ce soir.
Exactement. Et venez nous voir ici en plein cœur de Paris, sur les grands boulevards, le Brasserie Flora. Maroc. Le Maroc, à minuit, magnifique match contre l'Écosse.
Saint-Cloud, ça va y aller.
On en parlera à 19h30. Est-ce que c'est le match le plus compliqué à gérer pour les Marocains?
Je sais pas, toi, c'est dur pour toi de gérer, c'est là.
Ça va aller. De toute façon, le Maroc, c'est tout droit comme l'équipe de France. On arrête pas de vous le dire. Le quiz à
19h45. On va pas se croiser, là, comme en... il y a 4 ans. Non, c'est pas dans le même tableau.
Les montagnes vont finir par se croiser. Non, mais ils sont peut-être en finale, ou en demi-finale, mais c'est possible, ça dépend de la place dans le groupe.
Non, mais toi, tu me disais que c'était la finale.
La finale ou rien, évidemment. Ouais. Le cadeau du quiz, c'est un téléviseur Philips 550 plus.
Je crois que je suis France-Maroc en finale, tu divorces.
Immersion totale avec une image fluide. Pour participer au quiz, n'écoutez pas leurs bêtises. 32-16 touche 4 au quiz.
Ah, il se fait fouetter.
La boutre, il passe pas.
Un coup de poêle. Dégage de la maison. Vas-y, dégage.
Et ben vous m'accueillerez comme ça. Ça sera magnifique. Le direct, c'est le rugby. Avec ce match amical entre la France et l'Angleterre, Arnaud Valadon à Vannes. C'est la mi-temps.
C'est la mi-temps sur ce score de 14 à 12. Marcus Smith a marqué pour les Anglais juste avant la pause, quasiment sur la sirène. Et je rappelle les deux essais français de Porter et Harfeuil, sorti sur blessure juste derrière. Donc 14-12 pour les Bleus dans ce match de préparation avant la tournée d'été dans l'hémisphère sud.
Merci Arnaud. 19h06 sur RMC. On vous a préparé 48 secondes de bonheur parce que c'est l'actu de la Coupe du Monde. La prise de fonction express d'Hervé Renard, arrivé à la tête de la Tunisie. Défaite 5-1 contre la Suède la semaine dernière.
Gros discours. Hein.
Sabri Lamouchi évincé. Arrivée d'Hervé Renard. Le prochain match, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, Tunisie-Japon. Écoutez le discours mobilisateur d'Hervé Renard devant les Tunisiens.
Quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Ceux qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Aujourd'hui, il faut se bouger. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez? Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran... Parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Et vous pouvez pas imaginer ce que c'est, hein. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure.
Est-ce que vous croyez à la réaction d'orgueil des Tunisiens face au Japon?
C'est l'objectif du discours de Hervé. Hein. On sait que là-dessus, il est vraiment mobilisateur. C'est pas le premier message qu'il envoie comme ça à ses groupes.
C'est sa vraie qualité.
Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que c'est assez réducteur de dire qu'il n'y a que ça. Mais moi, j'aime bien ce mec-là, ce qu'il envoie dans un vestiaire. Je m'imagine bien assis là, entendre un entraîneur comme lui qui essaye de me bouger et de retrouver de la confiance et pour aller de l'avant. Bon, je pense qu'il y aura une réaction. Alors après, le problème qui se pose pour les Tunisiens, c'est que en termes de qualité d'effectif, on le disait, il y a quand même des gros manques. Et puis surtout, ils vont jouer deux équipes qui sont bien meilleures que le premier match.
Ce sera le Japon le prochain match et ensuite les Pays-Bas pour les
bonne chance.
Donc, on va faire pire. Hein.
Ouais, ça c'est sûr.
Oui, oui. Pas faire pire. Si, ils peuvent en prendre 6 au lieu de 5.
Exactement.
Mais bon, on leur souhaite pas. Allez. Mais je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y aura pas une réaction.
Je pense qu'avec Hervé Renard.
Ouais, mais dans quel sens la réaction?
La concentration,
De l'implication,
Moi, c'est plus sur l'aspect tactique. Après, l'aspect mental, il a évolué, mais les qualités.
L'implication surtout, non?
Ouais, aussi. Tactiquement, je veux dire, quand je regarde les deux matchs qu'ils ont fait, ils ont pris 10 buts en deux matchs.
Oui, c'est ça, mais
tu te dis que c'est un amical, ils avaient perdu 5-0 contre la Belgique.
Oui, mais ça a été des passoires, quoi. Il n'y avait pas de structure, il n'y a pas de coordination. Mmh. Déjà, s'ils parlent de l'aspect mental et de l'aspect physique, ça sera les plus forts qui joueront ce match-là. Moi, je veux bien.
Ouais.
Mais quelle structure tu vas amener en sachant que tu joues contre les deux équipes les plus dures et les plus relevées de ton groupe.
La structure, elle est simple quand tu regardes l'effectif et tu regardes la qualité offensive. Ça va être des joueurs défensifs, ils vont faire bloc et vont faire une ligne de 4, une ligne de 5.
Mais ça sera pas suffisant.
Pour éviter d'en prendre 5.
En rêve absolu, sur les deux matchs, ils ont une bonne structure, ils se défoncent, il y a la grinta, tout ce que tu veux, et ils accrochent à chaque fois le point du match nul. Ça va être compliqué quand même.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
il va falloir faire au moins un exploit et match nul sur l'autre.
À suivre sur RMC. Allez, tout de suite. Faisons le lien entre cette Coupe du Monde et le PSG. Parlons de Luis Enrique, entraîneur.
Manu, vous voulez reparler du PSG, ça lui plaît.
Alors un guide spirituel, c'est ce qu'on peut appeler aussi donc un ange gardien.
Je vais remercier le club pour la confiance en moi.
Two back, 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 two back.
Et donc ces guides vous accompagnent déjà pour vous aider à arriver sur Terre, donc lors de votre naissance.
J'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants.
Vraiment, c'est très très bon coach, le meilleur coach au monde.
Qui se prend une semence de son président.
Les guides spirituels, c'est plus des guides qui vont avoir certaines compétences.
Ils créent une équipe. Ça veut dire, c'est comme un puzzle. Il faut que les pièces y font clic.
Quand il y a eu l'entrée de Zvara.
C'est important que vous fassiez des demandes à vos guides.
On n'a pas un star. On a star. Le jour pour l'équipe aujourd'hui. Sainte le star là.
Il n'y a pas que des bilingues à RMC. Hein.
Ouais. C'est comme je dis, c'est faire un puzzle.
Et puis, patatrac.
Je te dis qu'on l'a perdu.
Avant toi.
Et oui, Manu.
Une question essentielle dans
Rotten Sanflamme. Comment les transforme les joueurs au PSG?
Jérôme, ça y est, on y est. Ce grand débat qu'on attend depuis 18h. Peut-on exceller en club et galérer en sélection? On a 9 des 11 joueurs qui étaient titulaires en finale de la dernière Ligue des Champions qui disputent actuellement la Coupe du Monde. Les exceptions, c'est Kvara, Géorgien et Safonov, russe. Ouais. Des joueurs du PSG qui ont du mal à s'illustrer. L'exemple frappant, c'est Dembélé avec les Bleus. On avait également pas vu un grand match des Portugais, Neves, Vitinha et Nuno Mendes, même si Neves a marqué le but portugais. Pareil pour Fabien Ruiz, Achraf Hakimi avec le Maroc, Willian Pacho avec l'Équateur. La force du PSG, c'est Luis Enrique, ses idées, ce collectif. Justement, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est plus compliqué en sélection? On va en parler avec Fabrice Hawkins, qui est en direct de New York pour nous. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut Fab.
Fabrice, tu vas nous parler du rôle différent demandé aux Parisiens en équipe de France.
Ouais, parce qu'en fait, il y a cinq Parisiens et c'est cinq cas différents. Il y a d'abord Ousmane Dembélé. Et lui, c'est vraiment une situation paradoxale. Un peu comme au Paris Saint-Germain, c'est un cadre dans le vestiaire de l'équipe de France. Il est respecté, apprécié de tous, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, ce n'est pas le même statut sur le terrain. On l'a vu en difficulté contre le Sénégal, notamment dans son placement. Dans le club de la capitale, on a l'impression que tout est huilé et que les joueurs autour de lui peuvent s'adapter. En équipe de France, en revanche, c'est l'inverse. C'est sans doute lui qui va devoir se décaler à droite contre l'Irak et céder sa place dans l'axe, là où il est le mieux, là où il se sent le mieux, finalement, à Michael Olise. Désiré Doué, lui, est apprécié par Didier Deschamps, qui a relevé une forme de crispation pour son premier match de Coupe du Monde en bleu. Rien d'inquiétant, mais il doit rapidement prendre la mesure de l'équipe nationale parce que ça pousse derrière lui, ça pousse fort. Et notamment Bradley Barcola, qui a le vent en poupe, son coéquipier au Paris Saint-Germain. Il a fait une bonne rentrée mardi, qui s'est soldée par un but. Le cas Bradley Barcola, lui, il est intéressant parce que autant au Paris Saint-Germain, on sait très bien qu'il passe derrière Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, autant en équipe de France, s'il continue avec ces performances-là, il pourrait intégrer le 11. Et puis il y a ceux qui ne jouent pas ou très très peu, c'est Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Warren Zaïre-Emery souffre de la concurrence en équipe de France. Hein. Il était encore l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France mercredi lors d'un match amical. Mais la concurrence est dense devant lui. Et puis Lucas Hernandez, on le sait, il est surtout là pour encadrer ce groupe. C'est sa troisième Coupe du Monde. Faire profiter à ce groupe son expérience.
Merci Fabrice. Petite stat marrante d'ailleurs, on parlait des Parisiens un peu en galère. C'est pas le cas du tout des joueurs du Bayern. Parce que Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz ont tous été élus hommes du match, du premier match de leur sélection nationale. Donc c'est le débat qu'on fait ce soir. Est-ce que les joueurs du PSG peuvent être aussi bons en sélection? 32-16 pour en débattre avec nous. Jérôme.
Bon, en fait, dans ta question, t'essayes de nous amener sur un sujet
polémique
que j'irai pas.
Je te pose une question.
Bah, moi, je te réponds oui. Ils peuvent être aussi bons. Il y a pas de problème. Après, tu peux me sortir la première journée de la Coupe du Monde. T'as raison. Il y a aucun joueur qui a été à la hauteur de leur performance avec le PSG. Après, attention, hein. Performance avec le PSG, ils sont double tenants du titre en Ligue des Champions, ils sont encore champions.
Mais c'est ça le paradoxe.
Donc ils ont brillé ensemble, il n'y a pas de souci. Et ces mecs-là, collectivement, ils sont très forts, ils l'ont montré avec un maestro, avec deux maestros, parce que pour moi, Luis Campos aussi est un maestro dans la gestion, dans le fameux puzzle avec Luis Enrique. Non, mais les deux sont responsables de ce qui se passe. La personnalité, la complicité, la complémentarité sur le terrain, en dehors, c'est fantastique ce qu'ils ont réussi à mettre en place, ces deux personnes-là. Donc ceux-là, il faut les garder. Donc bien sûr que ensemble, ils sont bien meilleurs. Et en plus, ils ont des gens... qui les bichonnent au quotidien, qui les font progresser. Ils ont tous progressé. Tous les mecs, même les mecs qui sont venus avec un certain statut, Hakimi avait déjà montré des choses intéressantes. Je trouve que le Hakimi d'aujourd'hui, il est encore meilleur que quand il est arrivé.
Il est meilleur en club qu'en sélection.
Et chez les plus jeunes, heureusement, tu vas me dire, quand t'as 19, 20 ans, 21 ans, que t'arrives au PSG et que t'as rien connu, bien sûr qu'ils continuent leur progression. Et certains, regarde Kvaratskhelia qui avait montré des choses incroyable avec Naples, il arrive là, t'as l'impression qu'il peut même avoir le ballon d'or. Donc une fois que t'as dit ça, c'est pour te dire que individuellement ces mecs-là sont très forts. Donc bien sûr qu'ils peuvent faire des très bons matchs et faire gagner leur équipe nationale. Mais là où tu te trompes pour moi de faire le comparatif, c'est que on l'a connu. Le foot de club, c'est pas le foot de nation, c'est pas le foot de sélection. Le foot de sélection, déjà, il y a un paramètre qui est hyper important par rapport, et moi je l'ai vécu aussi, donc je suis bien placé pour te le dire, c'est que le poids du maillot. Quand tu mets le maillot de la sélection, t'as une pression qui est d'autant plus forte. Parce que tu sais que là, tu vas pas être sauvé par tes coéquipiers. C'est toi le premier qui va être responsable. Si t'es bon, tout le monde va dire ah, il est bien, ils sont dans le collectif, le sélectionneur magnifique. Si t'es pas bon, c'est que toi. Il y a personne d'autre. Personne
t'as
va te sauver.
T'as plus de pression en sélection que dans
mais
un
oui,
gros club européen.
Bien sûr, que t'as plus de pression parce que là, tous les feux des projecteurs sont sur toi et tu le sais. Donc il y a des joueurs qui arrivent à prendre le dessus et d'autres qui sont un petit peu introvertis et qui arrivent pas. Mmh. Et puis après, en effet, il y a aussi à l'intérieur du groupe comment tu te fonds dans le collectif.
Ouais.
Parce que c'est comme ça. Et Manu, il est bien placé pour en parler parce qu'ils ont été champions du monde et champions d'Europe. Donc ils sont pas devenus champions du monde et champions d'Europe sans avoir un collectif très soudé. Mmh. Sinon, t'y arrives pas. Eh ben, écoute, ça, c'est pas donné à tout le monde de se fondre dans ce collectif-là. Et donc, à partir de là, il y a le paramètre de la pression, le paramètre de la vie commune là, au collectif, et puis le sélectionneur, les idées qu'il a sur le jeu, est-ce qu'elles te correspondent ou pas.
Et c'est ça la différence.
Donc en fait, il y a tellement de paramètres que, oui, moi je crois que Doué peut être très fort en équipe de France, que Barcola, il l'a montré là en rentrant, que Dembélé, il peut être très fort. Attention, après, ils ont aussi des statuts, et je finis là-dessus, qui sont différents en sélection qu'en club. Pour les 5 parisiens en équipe de France, il y en a que 2 qui sont titulaires,
hein. Bien sûr.
Bon, écoute,
Doué et Dembélé. On ne parle pas que des parisiens français, on parle des parisiens tout.
Non, mais les autres,
il faut arrêter même ça, Jérôme, faut arrêter toujours de comparer le club et la sélection parce
moi,
que
ça a rien à voir.
Par exemple, on parle des joueurs du PSG, on sait que le PSG c'est une mécanique qui est déjà huilée celle-là et ça fait les automatismes, les repères. Ça se fait sur toute l'année. En sélection, tu n'as que quelques semaines pour pouvoir...
Voir quelques jours.
Ça dépend des dates FIFA. Donc voilà. En sélection, tu n'as pas le temps de créer tout ça. Donc,
et pourquoi certains y arrivent alors? Pourquoi Mbappé y arrive? Pourquoi Olise y arrive? Pourquoi Harry Kane y arrive? Être très fort en sélection.
Il y a des joueurs qui s'adaptent plus vite peut-être.
Et puis regarde Manu et Soulé. Est-ce que vous avez... On a connu... Regarde Olivier Giroud. Regarde, c'est le contre-exemple.
Contre-exemple.
En club, il n'arrivait pas à s'installer dans la durée. Il était souvent remplaçant dans tous les clubs où il est passé, soit à part à Montpellier, mais sinon il a souvent été le remplaçant. Il a toujours été appelé par Didier parce que Didier, quand il le mettait, t'as le mec qui marquait but sur but. Ouais. Il marquait les buts. Eh ben ouais, mais ça c'est pas donné à tout le monde.
Alors, moi je trouve que
mettre le débat et de faire une espèce de comparaison, voire une opposition entre les sélections et le football du club.
C'est expliquer un paradoxe.
Très compliqué, parce que les systèmes ne sont pas les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes la plupart du temps, et peut-être aussi la vision de l'entraîneur n'est pas la même. Moi, j'ai essayé, je parle de mon cas, moi. J'ai essayé, à chaque fois que je joue en équipe de France, de toujours jouer de la même manière que je joue en club. Même si mes partenaires étaient différents, je ne voulais pas m'inventer un jeu qui ne me correspondait pas, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, la meilleure solution. Et quand tu vois les joueurs que tu sais qui sont bons dans leur sélection, j'ai l'impression, en fait, qu'ils reproduisent ce qu'ils font en club.
Ouais.
Et quand je vois les joueurs que tu as cités qui sont moins performants, j'ai vu les matchs de ces gars-là, je trouve qu'ils ne jouent pas de la même manière qu'en club.
Oui, mais est-ce que Dembélé peut jouer de la même manière
comme
club.
Tu dis,
c'est
impossible.
C'est ce que je te dis. Donc,
Luis Enrique, c'est pas Didier Deschamps. Tu vois ce que je veux dire. Luis Enrique, c'est pas Didier Deschamps. Ça se tombe, Luis Enrique demande des choses que Deschamps ne demande pas.
C'est même sûr. C'est même sûr.
Pour te dire, tu vois.
Ça, on le voit.
Tout à l'heure, tu disais que oui, Hakimi, il est moins performant en sélection. Ah oui, il est moins performant.
C'est pas le même rôle. Il n'a pas le même rôle.
Au joueur quand il est au Paris Saint-Germain. Mais Hakimi, là-bas, il reste toujours un boss. Peut-être Ousmane Dembélé qui est peut-être un peu moins bien.
Mais il n'est pas dans la même position. Hakimi, la plupart du temps, il joue de la même manière avec le Maroc, avec le PSG.
Oui, mais il est moins impactant.
Il y a cette liberté. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même Dembélé.
Bien sûr. Dembélé, regardez Vitinha avec le Portugal. C'est complètement différent.
Je le trouve extrêmement éteint, en fait.
Oui, mais Ousmane, il est ce qu'il a fait durant pas mal de temps dans sa carrière quand il jouait côté droit. Revoit les matchs. Mmh. Moi, j'ai pas vu tous les matchs d'Ousmane, que ça soit à Dortmund, à Barcelone et tout ça, mais ou même au PSG au départ. Quand il jouait à droite, il y a des matchs où il est passé à côté.
Il passait à côté.
Par contre, là où il est devenu le meilleur joueur de la planète foot, c'est quand le seul attaquant faux numéro 9 à pouvoir se projeter cette liberté-là et proche du but où les stats ont tourné pour lui.
Et je pense que sa progression aujourd'hui, je pense qu'il le dira jamais, mais je suis convaincu que si tu lui demandes de venir maintenant, de revenir à son poste initial à droite, il voudra pas.
Ben non, parce qu'il sait,
tu sens, alors qu'avant il était au service à chaque fois de ses coéquipiers.
Tu sais, il nous l'a dit, on l'a fait en interview avant la Coupe du Monde avec Benoît, et je lui ai posé cette question-là. C'est là où tu te sens le mieux.
Ça se voit.
Il m'a dit, mais la vérité, Jérôme, je suis devenu Ballon d'Or. Grâce au fait d'être proche du but, il y a
donc
moins d'efforts.
Il faut jouer de la même manière qu'en club.
Exactement. Et mais là, je te rejoins sur le cas Ousmane. Sur les autres, je pense en effet, comme tu l'as dit, jouer de la même manière, oui et non. Parce que regarde, toi, au départ, je me souviens, j'étais jeune, mais tu étais défenseur gauche.
Après défenseur central, après t'es monté au milieu.
Ouais. Mais au départ, tu jouais derrière.
Ouais.
Je pense que derrière, et Soulet, tu le sais aussi.
Ouais, ça me saoulait de jouer derrière.
Non, mais vous avez, je pense, honnêtement, vous avez moins besoin d'avoir des coéquipiers pour performer à côté de vous. Moi, je jouais dans un rôle offensif.
Ouais.
À Monaco, par exemple, quand je brillais à Monaco, j'avais des coéquipiers, ils savaient. J'avais un arrière-gauche qui s'appelait Patevra. On fonctionnait les yeux fermés, vraiment. Tu vois, je savais ce qu'il allait faire. Il savait ce que j'allais faire. On avait cette complicité. Quand je suis arrivé en sélection, où il y avait tous les champions du monde, champions d'Europe, toi,
t'as perdu cette complicité-là.
Ben, en fait, j'avais plus. Et pourtant, j'avais essayé de recréer ça avec Lisa, tu vois, qui jouait, qui n'était pas n'importe qui non plus. Mais c'est pas le même joueur. Et surtout les milieux de terrain. Et moi, j'ai souffert de ça parce que je savais que pour performer, pour être très bon, il me fallait des coéquipiers à côté.
Et qu'il fallait qu'ils soient complètement ce que tu faisais à Monaco.
Exactement. Bon. Mais là où je trouve moins de circonstances atténuantes à certains quand même, qui aujourd'hui n'ont pas le même profil que moi ou d'autres, si tu veux recentrer vers le collectif, c'est que les joueurs qui individuellement peuvent dribbler toute l'équipe adverse, eux, ils doivent trouver la solution individuellement.
Ouais.
C'est à eux de gérer cette fameuse pression que je te disais, parce que encore Manu en a pas parlé, parce que lui est tellement habitué, il a eu 80 sélections, donc forcément. Mais quand tu mets le maillot sur les 10, 15, 20 premières sélections, t'as une pression qui est différente que le maillot du club, Manu.
Pour ça, laisse,
t'as pas le droit à l'erreur.
Laisse, tu joues pas bien.
Exactement.
Laisse Ousmane trouver ses repères.
Mais moi, j'y crois.
Comme on dit souvent, le talent voyage, le système reste. Son talent, il va arriver.
C'est bien ça.
Quand il est pas arrivé, il va arriver, tu vas voir que l'équipe de France va encore progresser.
Soulé, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que
Soulé, tu l'avais marqué dans tes notes, ça.
Soulé, le philosophe.
C'est
marqué sur la fiche.
Non, mais c'est pour ça.
C'est de la tête en plus.
Dégage-moi tout ça.
Jette-moi ces fiches. On travaille pas.
Et tu t'en sers même pas.
Alors, est-ce que quelqu'un dans le public peut prendre les fiches de Soulé, parce qu'il est meilleur sans fiche. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec
un
avocat?
Le politicien du sport.
On n'a plus le droit de travailler. Ok, je travaille, je prépare.
C'est pas sur RMC que tu devrais aller, c'est sur PFM.
Et juste, j'ose pas vous poser la question, Jérôme, juste pour t'énerver un peu.
Oui.
J'ose pas te poser la question. Est-ce que ce serait des six grands joueurs s'ils n'avaient pas connu Luis Enrique? Non, là, je veux pas jusqu'au bout de cette réflexion.
Mais non, mais moi, je pense qu'une carrière, c'est fait de rencontres. Et il y a des entraîneurs qui comptent plus que
d'autres. Le potentiel
était là. Le potentiel était là, mais il faut le confirmer.
Demande à Manu s'il avait
question depuis ce matin. En fait, je trouve très ambigu, en fait.
Si Manu n'avait pas croisé Arsène Wenger, demande-lui s'il avait fait la même carrière.
Et si ma tête, on l'avait, on aurait mon oncle.
S'il n'avait pas croisé Dédé.
S'il n'avait pas croisé.
Toi, si t'avais pas croisé Guy Lacombe.
S'il n'avait pas croisé Laurent Blanc.
Laurent Blanc, Guy Lacombe.
Laurent Blanc. Ah, mais non, mais.
Jean-Marc Nobulo qui est venu me chercher.
Ah, non, mais c'est vrai que. Pourquoi je suis Laurent Blanc? Tu m'as dit que c'était pas lui.
Vaïd, regarde, si t'avais pas croisé Vaïd dans ta carrière,
je me serais bien. J'aurais fait une autre carrière, je peux vous dire.
Ouais. Allez, 19h24 sur RMC dans un instant.
On embrasse pas Vaïd, bonne retraite. Hein.
Ouais, voilà. On embrasse Vaïd, il nous a beaucoup touché en fin de saison avec le FC.
Ah, il t'a touché, toi?
La VAR de Rotten s'enflamme dans un instant. Maroc-Écosse.
Moi, je me suis pas fait avoir.
Est-ce que c'est le match le plus compliqué à gérer pour les Marocains? 32-16 pour participer avec nous, tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme. Ah, la musique est bonne. Ah oui, on est avec Manu Petit. Ça y est, il est sur la table, je vous l'ai dit, ça n'allait pas durer longtemps. Allez, hop, il est torse
nu. La danse des épaules.
Ah, non, mais c'est dingue. Et il y a tout le grand boulevard sur Paris qui a vu. Il dit non, mais c'est pas Manu Petit. Si, il a toujours la queue de cheval, elle est là. Voilà. On est avec Soulé. On est avec Benoît Boutron. On se régale. Dans 15 minutes, il y aura le quiz quand même.
Le quiz, incroyable. Un téléviseur Philips, 50 puces, 9000 à gagner. Quiz au 7-32-16 ou 32-16 touche 4. Le direct, c'est le rugby avec ce match amical entre la France et l'Angleterre. Les équipes B, Arnaud Valadon à Vannes.
La 53e et les Bleus viennent de marquer deux essais, 28-12. Nolan Le Garec, ses parents habitent à quelques encablures du stade de la Rabine ici à Vannes. Grosse ovation, il vient de sortir et juste après, c'est son comparse à la charnière au stade Rochelet. Antoine Astoy qui a marqué, les Bleus qui ont creusé l'écart dans ce match de préparation. 28-12, on arrive à l'heure de jeu.
Merci Arnaud. 19h30, Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Attention à ce ballon en profondeur pour Saïbari. Saïbari, la frappe de Saïbari. But ! L'ouverture du score pour le Maroc. C'est pas une surprise dans la première mi-temps que l'on vient de voir, mais Saïbari s'est échappé en profondeur. Il a complètement grillé en vitesse la défense centrale brésilienne sur un très bon service de Brahim Diaz. Saïbari qui vient piquer son ballon devant Alisson Becker. Et ici, à New York, à la Coupe du Monde, le Maroc mène 1-0 face au Brésil.
La VAR de Rotten sans flamme.
La nuit prochaine, à partir de minuit, Écosse-Maroc, le groupe C, l'Écosse en tête avec 3 points, le Maroc 1 point après le nul face au Brésil. Avant d'accueillir nos correspondants, on va tout de suite lancer la pause fraîcheur. Pause fraîcheur parce que Nicolas Pelletier est à New York. Salut Nico.
Ah, salut les amis, salut à tous, on à Boston, lieu du match.
Eh oui, t'es à Boston. Et Nico, tu vas nous parler justement de la pause fraîcheur, parce qu'il faut que tu nous racontes comment les Écossais provoquent des ruptures de stock dans les bars. C'est complètement fou cette histoire.
On en a autour du plateau.
C'est une déferlante écossaise dans les rues de Boston depuis une semaine. Ils sont installés ici depuis une semaine parce qu'ils ont joué leurs deux premiers matchs ici à Boston. Des maillots écossais partout, à tous les coins de rue. Des chants en plein milieu de la nuit, des kilts en pagaille à tous les comptoirs. Et surtout une descente d'alcool qui rend jaloux les Américains. Et les Écossais le savent, ils ont une réputation à tenir.
I might not be good at football, but I'm good at drinking and I'm good at singing.
On n'est peut-être pas très bon pour le foot, mais on est très bon pour boire et chanter. Voilà ce que disait ce supporter écossais que l'on vient d'entendre. Ils sont environ 25 000 dans les rues de Boston. Certains médias parlent de deux fois plus de supporters.
Oh là,
et pour les alimenter en alcool, ces supporters, la logistique, elle est énorme. Et ça doit suivre normalement dans les pubs de Boston. Certains sont à sec et certains, à un moment de la journée, sont un peu plus tendus. Alors Oran, manager d'un des pubs de la ville, n'en revient pas.
On sert environ 5000 pintes par jour. C'est vraiment fou. Normalement, la Saint-Patrick, c'est notre plus gros événement. Mais là, c'est 3, voire 4 fois plus. Parfois, nos stocks de bière sont vraiment justes. On a un peu peur. Pour l'instant, on arrive à résister. Samedi dernier, on a secrètement livré 75 fûts. Normalement, ils ne livrent pas le week-end, mais j'ai réussi à en avoir.
Mais
j'adore.
Et voilà, donc il y aura une excellente ambiance ce soir entre l'Écosse et le Maroc, ici du côté de Boston. Et je vais vous faire quand même écouter l'ambiance des Marocains qui sont en folie ici du côté de Boston.
Incroyable. Merci Nico.
Qu'est-ce que tu dis là?
Et il n'y a plus de stock. Il y a plus de stock. Magnifique à Boston pour les fûts de bière. C'est quoi? Ils s'en foutent 5000 pintes par jour.
La Tartan Army.
Parlons désormais du Maroc.
Si tout droit, ça va pas être si facile.
Si t'inquiète
ça.
Pas, Edgar Grolot est là pour vous rassurer. Salut Edgar.
Salut Benoît, c'est Jérôme, c'est tout.
Edgar.
Edgar, c'est le match d'après pour les Marocains qui ont été impressionnants face au Brésil. D'ailleurs, le sélectionneur Mohamed Wahbi, il a voulu un peu tempérer les ardeurs, hein, dire que la compète est loin d'être terminée. Hein.
Oui. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie. D'abord parce que le Maroc n'a pas gagné son premier match, hein, tout simplement, au contraire de l'Écosse face à Haïti. Et ça, le sélectionneur Mohamed Wahbi en est bien conscient.
L'euphorie, c'est très simple. Il faut juste mettre le classement. On a un point, ils en ont trois. Donc on peut penser ce qu'on veut. Ils sont devant nous. Donc ce qu'on a fait, ok, on a fait des bonnes choses, mais on a fait ce qu'on savait faire et je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait, et le but c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et donc voilà, on regarde le classement, 3 points, 1 point.
Bon, il peut dire ce qu'il veut le sélectionneur, la réalité c'est aussi que le Maroc a fait forte impression face au Brésil, a confirmé définitivement qu'il était un outsider sérieux pour le titre, et ça Jérôme, ça vient aussi avec une attention médiatique particulière autour de l'équipe et aussi autour de certains joueurs comme Ayoub Boadi qui s'est révélé aux yeux du monde face au Brésil.
Mais je le dis, c'est pour vous en fait, c'est juste une découverte, Boadi, pas pour nous. Et donc c'est pour ça aussi que vous êtes tous enflammés. Mais c'est clair que pour son jeune âge, contre le Brésil, dans un contexte pareil, c'était peut-être quelque chose qui a étonné plus d'un. Maintenant, il a la tête sur les épaules. C'est un garçon très réfléchi. C'est un garçon à qui on doit vraiment pas parler. Et je pense que j'ai la chance aussi dans l'effectif que j'ai des joueurs dont Azdeh Nounahi, des cadres et des leaders qui savent aussi encadrer et entourer les jeunes joueurs. Mais je suis certain qu'il va rester bien les pieds sur terre.
Il faut les garder sur terre les pieds parce que l'enjeu du match de ce soir est immense. En cas de victoire, le Maroc aurait 4 points et ferait un énorme pas vers le prochain tour, monsieur.
Merci Edgar. C'est la VAR de Rotten sans flamme, Maroc-Écosse. Est-ce le match le plus compliqué à gérer pour les Marocains, Jérôme, à ton avis?
Le plus compliqué, non, le plus un des matchs les plus. Il sera plus facile que le premier dans tous les cas.
Pas sûr. Hein.
Bien sûr qu'il sera plus
facile. Là, t'es favori, tu dois assumer contre une équipe qui a déjà 3 points.
Non, mais il sera plus facile. Il ne joue pas le même adversaire.
Ouais.
L'Écosse, en effet, c'est fighting spirit. On les connaît. Les Écossais, ils ne vont pas lâcher. Ils vont défendre. Ils vont être. C'est pas incroyable. Le meilleur joueur écossais, c'est McGinn. Donc, excuse-moi que.
McTominay.
Ouais, ou McTominay. Mais bon.
Il y a quelques beaux noms quand même, Jérôme.
Oui. Mais moi je pense que par rapport à ce qu'on a vu du Maroc, que le Maroc est largement capable de reproduire l'excellente première mi-temps. Moi, ils m'ont surpris, vraiment, ils m'ont surpris. Alors, je savais que c'était une belle équipe, hein, j'avais vu, mais là, je trouve qu'ils ont vraiment élevé leur niveau. En effet, Boadi, contrairement à ce que nous dit le sélectionneur, c'est une surprise à ce niveau-là. Oui, c'est une surprise, c'est un jeune joueur, on savait ce qu'il était capable, mais franchement, avec autant d'aisance contre sur un début de Coupe du Monde, premier match contre le Brésil, rayonner comme ça, c'est une vraie performance. Alors en effet, il a la tête bien faite, qu'il la garde comme ça, et je pense que lui bonifie le reste. Après le milieu de terrain, El Hanaoui,
Unai,
il y a El Mourabet aussi qui peut rentrer. Ce que je veux dire, Diaz qui leur a fait du bien.
Et Saïbari en neuf.
franchement, s'il continue avec ces 5 joueurs qu'on vient de citer de rayonner, il n'y a pas de problème. Tu peux même rajouter Achraf Hakimi aussi sur le côté droit.
Et Mazraoui qui a été très bon.
Mazraoui très bon. Ouais. Ah, ça fait franchement, bon. Vous êtes inquiet contre l'Écosse. Non, mais après, il ne faut pas se rater. C'est toujours pareil. Ils ont fait match nul, premier match. Il faut, pour aller se qualifier, il faut déjà une victoire.
Toi, Soulet, tu nous disais que c'est la nation africaine qui t'a le plus impressionné. Hein.
Ouais, mais au-delà de ça, c'est surtout, si on revient au sujet-là, c'est que ce match-là, je pense que c'est le match piège par excellence. Tu sais, face au Brésil.
Tout le monde les attendait.
Voilà, les attendait beaucoup, hein, parce qu'ils n'étaient pas favoris. Mais là, ils vont être favoris. Exactement. Face à cette équipe écossaise qui défend à 11, qui va être bloc bas, qui va être très difficile à jouer parce que voilà, c'est leur style de jeu. Et maintenant, comme les Marocains, ce sont eux les favoris, ce sera à eux d'imposer leur style de jeu. Et quand tu joues face à une équipe comme l'Écosse qui joue bloc bas, qui va attendre son adversaire et que tu n'es pas à l'abri de taper un contre ou de manger un corner par McTominay là.
McTominay,
je pense que ça va être match, il va être encore plus dur parce que non, tu sais pourquoi? Parce que en fait, ils ont mis tellement la barre haute que les Écossais ils vont jouer
après,
encore le bloc bas.
Après,
c'est aux Marocains de trouver.
On est d'accord,
mais je pense que ça sera plus difficile que contre le Brésil.
Non, mais le Maroc aujourd'hui, c'est assumé. Ils veulent faire mieux que la dernière
Coupe du Monde.
C'est quoi faire mieux?
Il faut passer.
C'est aller au bout. Hein.
Je suis d'accord. Donc, je pense qu'ils vont passer, mais je pense que ça va être plus difficile que.
C'est sûr que s'ils perdent contre l'Écosse. Là, on reverra peut-être les objectifs.
Tu ne seras pas éliminé, hein, parce qu'il restera le match.
Mais si tu fais match nul, tu te mets une énorme pression avant de jouer à Haïti à la dernière journée. Alors que si tu gagnes, tu es tranquille pour ta dernière journée.
Mais face à l'Écosse, je dis que ça ne sera pas simple.
Qu'est-ce que tu en penses, Manu?
Moi, je pense que les deux équipes ont. C'est un match dangereux pour les deux équipes. Alors, tu me dis le Maroc, parce qu'ils ont un seul point et l'Écosse, 3 points. Je pense que tout le monde arrivera à prendre 3 points contre Haïti. Donc c'est surtout ce match-là qui donc quand tu regardes le classement, l'Écosse ils sont plus costauds lorsqu'ils ont un bloc médian bas où ils arrivent à jouer en transition rapidement. Ils ont des joueurs capables de répéter les efforts. Donc moi je suis d'accord avec Soulet. Même si sur le papier
le match il va être plus dur ce soir.
Moi je pense que le Maroc est supérieur à l'Écosse, il n'y a pas de souci.
Oui, bah d'accord,
mais ce genre de match.
Non, mais si vous êtes en train de me dire qu'ils peuvent se faire accrocher, oui, ils peuvent se faire accrocher. Non,
mais ça va être le match au pied.
Ce que je tiens à dire par là, c'est que quand tu regardes le calendrier dans le groupe, là, ils jouent le deuxième match contre le Maroc, joue contre l'Écosse. L'Écosse a déjà joué contre Haïti, ça veut dire qu'ils vont jouer contre le Brésil. En admettant que le Brésil gagne contre Haïti, ça leur fera 4 points. D'accord ? Donc 4 points, l'Écosse 3 points, avant même de parler du résultat. Donc ça veut dire que derrière, ils vont jouer contre Haïti, le Brésil. Donc ils sont quasiment qualifiés. Ouais. Donc ce match-là va déterminer. Parce que
le classement.
Le troisième, mais le troisième peut se qualifier aussi. Ouais. Mais quand je regarde les meilleurs troisièmes, t'en as quand même beaucoup qui sont à la ramasse à l'heure actuelle.
Avec 3 points ou 4 points, c'est bon.
4 points, c'est 65% de qualification.
Méfie-toi quand même, Jérôme. Regarde les meilleurs troisièmes.
Il y a beaucoup de matchs nuls, Manu.
Oui, justement.
Donc c'est ça. C'est avec ça. Des matchs nuls, t'avances pas.
C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Moi, je pense que moi, je suis écossais. Je vais attendre les Marocains parce que je sais leur style de jeu et je vais essayer de les prendre en contre-attaque.
Oui, mais d'accord. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je comprends. Je dis pas que ça va être facile. Et ils jouent pas Curaçao là, le Maroc. Ils jouent l'Écosse, mais ça reste l'Écosse. Il y a l'Écosse, c'est pas non plus.
Mais tu sais comment ils sont, t'as joué là-bas.
Oui, mais
tu
d'accord.
Tu sais la mentalité que c'est. Tu sais que c'est toujours difficile.
Je vois juste une chose, c'est que dès qu'il y a une phase finale de Coupe du Monde, l'Écosse, il passe jamais.
Exactement.
Voilà, donc ça doit.
C'est la Coupe du Monde de la surprise.
Je me rappelle du 8e de finale contre le Brésil, non? C'était pas ça?
C'était leur dernière.
C'était, je crois, leur meilleure d'ailleurs.
Ouais, oui.
Écosse-Brésil, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde 98. Ça, c'est sûr. Mais ils avaient pris une bonne tour.
C'est pas la Coupe du Monde après. Enfin, bref.
Non, mais après, le Maroc reste. Oui, ça c'est sûr.
Tu me dis que c'était
jamais passé la
meilleure nation africaine.
Non, mais ça je le dis. C'est, pour moi, c'est, ça reste le Sénégal après le Maroc, puisqu'on est champion d'Afrique. Mais non, mais non, mais ça sera pas facile, je veux dire, parce que on connaît.
Attends, ouais, mais,
tu connais le coach.
Et quand là-bas. Le Sénégal va jouer l'Irak, tu vas pas tenir le même discours.
Non, mais les gars,
tu vas pas on reste favori, mais ne faut jamais sous-estimer.
Sous les Jérômes, c'est ça que je suis en train de dire. Jérômes, en fait, cette question-là, on devrait même pas se la poser, dans la mesure avec le nouveau format de la Coupe du Monde. Tu regardes toutes les poules, il y a toujours une équipe qui est largement à la portée, globalement, dans toutes les poules, qui est largement à la portée des autres équipes. Ouais. Donc tu te dis, finalement, si c'est même le troisième peut se qualifier, cette question qu'on se pose avant ce match Maroc-Écosse.
Oui, mais non, mais moi, je vous parlez comme si les Marocains, ils ne faisaient pas partie des
Marocains.
Non, c'est pas ce qu'on
dit. Moi, je pense que
c'est dénigrant pour les Marocains, ce qu'ils ont dit.
Mais non, t'inquiète pas.
Regarde,
t'es filmé, Jérôme, tout le monde voit bien que t'es en train de féquer.
Tout droit pour le Maroc.
Et eux, les deux,
ils ont dit que l'Écosse allait accrocher le Maroc.
J'ai pas dit qu'ils allaient accrocher. J'ai dit que ça sera plus difficile. Et ça peut être un match
piège. Tout ce qu'on voulait dire à ce moment, c'est différent. Tu le Maroc n'est pas Sénégal et le Maroc va faire le boulot, rassurez-vous. Il n'y aura pas photo entre le Maroc et
l'Écosse. Tu sais que l'Allemagne disait la même chose contre Curaçao. Il disait, waouh, ça va être dur, hein, contre Curaçao.
Bah, à un moment donné, ils ont tremblé. Quoi.
Un grand merci à Edgar Bolo. Merci à Nicolas Péché. Et dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme, le dernier quiz de la semaine avec Louis Gerbier qui est là, un magnifique cadeau à gagner.
Bah, alors là, jouez avec moi parce qu'ils n'en ont pas gagné une tous les deux.
Et le direct, c'est le rugby, les équipes B de l'Angleterre et de la France qui s'affrontent à Vannes, Arnaud Valadon.
Oh, équipe BT sévère, à prime, c'est pas mal. 28-12 pour les Français à 16 minutes de la fin. On joue bien les Bleus ici. Ils jouent bien.
Bon, voilà. Merci. La suite de ce match dans un instant, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC. On est à 10 minutes de la fin de Rotten sans flamme de la semaine. Après, on vous laisse tranquille tout le week-end. Avec plein de matchs de Coupe du Monde, donc vous avez de quoi vous régaler et surtout de nous attendre impatiemment parce qu'on sera de retour lundi à partir de 18h comme tous les jours de la semaine. On est en direct du Flora, brasserie parisienne sur les grands boulevards dans le 9e arrondissement. On est avec Manu Petit, avec Soulé Diawara, avec Benoît Boutron. C'est le quiz de Louis Gerbier, deux auditeurs. On y va.
Exactement, on y va. On rappelle qu'il y a une grande soirée de rugby qui arrive sur RMC, l'After Live avec Christophe Cessieux et la première demi-finale entre le Stade Toulousain et le Racing 92 à suivre sur RMC, évidemment. Tout de suite, c'est le quiz.
RMC, tous contre Rotten.
Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe. Salut
Louis Gerbier a mis les notes de l'émission. Allez écouter ça en podcast. C'était un
régal. Il a été sévère.
Ah ouais,
prof de prépa.
Vont s'affronter ce soir pour une télé Philips, Hugo et Sylvain. Salut à vous deux.
Salut les gars.
Sylvain, tu es supporter de l'OM. Tu veux jouer avec la légende Souleymane Diawara?
Non, avec Jérôme.
Il veut gagner lui. Hein
ouais. Okay. Ouais. Sylvain avec Jérôme, Hugo avec le reste du monde. Ok Hugo.
C'est parti.
Hugo. Je te souhaite un bon courage.
Eh ben, on va faire plaisir à Jérôme en cette fin de semaine.
Qui fait plaisir à Jérôme.
Non, mais jamais. Attendez.
Je suis en route pour un grand jeu.
On va faire un quiz sur un joueur qui est dans l'actu et qui est peut-être un de ses joueurs préférés, si ce n'est son joueur préféré.
Ah ok.
Vous l'avez deviné.
Qui?
Kylian Mbappé.
Ah, un quiz Kylian Mbappé, magnifique.
Eh oui. Bah oui, il est dans l'actu quand même.
Ah oui, un peu.
Allez, question flash. Qui était son premier coach en pro?
Georges, le Portugais.
Jardim.
Voilà, belle passe.
C'est vrai que Georges, t'aurais pu l'accorder.
Ouais.
Georges Jardim.
Georges Jardim,
le Portugais.
Ouais. Bah maintenant, on donne les nationalités seulement.
1-0 pour Sylvain et Jérôme.
Question auditeur, Sylvain et Hugo.
Et Hugo.
Sylvain, Hugo. Quel nombre de sélections aura-t-il lors de France-Irak lundi?
Hugo, Sylvain. C'est un chiffre symbolique. Hein.
50.
Non, je vous ai pas demandé 53, quoi.
5.
C'est toi Sylvain qui a dit 5.
Ouais.
Bien joué Sylvain. 2-1 pour Jérôme et Sylvain.
Qu'est-ce qu'on leur met?
Question Savidan.
Ah.
C'est quoi ça? Bah c'est pas forcément Florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi la question Savidan?
Ben, je vais vous citer tous les.
C'est
tous
qui Savidan?
Tous les clubs de la carrière d'un joueur qui a fait que des clubs pas hyper florichons. Quoi.
Ah ouais, comme Steve quoi.
C'est qui Steve?
Ah ouais, d'accord.
Non, mais c'est. Ouais, c'est... Allez, les gens, ils me regardent là en terrasse, ils me disent mais c'est qui Steve? Non, mais je vous expliquerai.
On cherche un ancien. On cherche un ancien coéquipier à Monaco de Kylian Mbappé. Monaco, Cercle Bruges, Stade Brestois, Augsbourg, Saint-Étienne, Augsbourg, Espagnol, Barcelone, Augsbourg, Saint-Étienne, Augsbourg, Saint-Étienne.
Eh ouais.
Miralas? Non.
Non. Réfléchis.
Saint-Étienne, Augsbourg.
Oui.
Ouais. Stade Brestois aussi. Hein.
Oui.
Il avait mis un but incroyable avec le maillot de Brest.
Tout à fait. Eh oui.
Il va...
Initial.
Oh là, on y est là, pas loin.
Qui
là. Du Soulé. Fais-toi
je
confiance.
Je m'en fais plus son nom là, Ivan
Cordova.
Non.
Cardona.
Cardona, oh là là. Oh Vitinha.
Cardona.
Oh mais qu'est-ce qui t'arrive, Ivan, toutes ces passes bon, là. Oh la vache.
Eh, Ivan. Ah Ivan, maintenant ça suffit.
C'est
Ivan.
Bon, allez. 3-0 pour Jérôme.
Il a dit Cordova, mais bon,
ouais,
c'est pareil.
C'est pareil,
ouais.
C'est vrai
qu'entre Cordova et Georges, t'aurais pu leur donner.
Voilà. Et Georges Cordova, ça aurait fait deux points.
Georges Cordova.
Jérôme, tu lui as prêté ta patte gauche, je crois.
Il
fait que des passes. Ah. Tiens, allez, question petit.
Ah,
question.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe.
Triche.
Je vous emmène à Ibiza.
Ah,
oh, bah Manu Liège, là. Du voyage, bouffe. Puis 18h30, Liège, je peux te dire, avec tout ce qu'il a.
Il y a.
C'est grave.
Il y a quelques semaines, il lui a été reproché d'être parti en vacances à Ibiza pendant sa blessure. Il est parti avec sa copine qui s'appelle...
Wow, l'autre.
Ah ouais, connu là.
Esposito.
Ah, oh, il est fort. Allez, c'est
et
fort.
1 et Esther 2 et 3 Esposito. Et 4 à 0 pour Jérôme et Sylvain.
Là, c'est dur là.
Ça devient gênant.
Ah ouais, allez, pause fraîcheur. On casse le rythme. La question hors thème. Là, on va voir un peu si vous êtes dans votre Coupe du Monde.
Ah, je leur laisse, là, parce que 4-0, c'est...
Quel était le score de Colombie-Ouzbékistan hier? Hier dans la nuit, enfin, il y a 36 heures.
4-1-0.
Non, non.
4-1.
Non.
1-3-1.
Oui.
Pardon, oh, ouais. Bravo, Manu. Réduction de l'écart. 4-1, juste.
Fin de la pause, fraîcheur.
Allez, fin de la pause. Belle équipe, l'Ouzbékistan.
Allez, ouais, une très belle équipe. Question Cristobal.
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
La pregunta Cristobal.
Il faut répondre avec l'accent espagnol de Dugard.
Ah, ouais, vous faites un bel accent. Vraiment.
Avec quel joueur du Real a-t-il le plus joué de match depuis son arrivée?
Abraconte. Au Real,
Valverde.
Bonne réponse, oh Frédérico Valverde.
4-2, Manu est de retour dans le game.
T'as un petit accent, hein.
Allez,
on était à la frontière.
Le score est remis à 0.
Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas allez, possible.
Balle de match entre Hugo et Sylvain, entre Rotten et le reste du monde pour gagner une télé Philips. Attention.
Allez, on va finir cette semaine et ce quiz avec une question con. Ah.
Qu'est-ce que vous êtes con?
RMC.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Quel ancien coéquipier en bleu du Kix marche sur des braises et s'allonge sur des planches de clous? Enfin, à une lettre près.
Facile. C'est facile là-haut.
Une planche de clous.
Bah oui, qui fait ça?
Un café,
oui,
le café.
Oui,
c'est clair.
Oui.
Kéfir.
Nabil Fekir.
Kéfir.
Le kéfir.
J'avais l'autre là qui
ils m'ont fait un quiz incroyable. Ils m'ont fait un quiz
incroyable.
Non mais je te confirme, c'est encore un quiz de merde.
Franchement, vous avez bu la même boisson ou quoi les deux?
Franchement,
tu veux pas poser des questions sur le foot un peu?
Tournée générale pour Manu.
Le prénom de la copine de Fekir.
Il joue pas au curling.
Magnifique quiz. Et bravo à Sylvain qui remporte ce magnifique cadeau. Incroyable.
12 contre Rotten sur RMC avec le téléviseur Philips 50 PUS 9000. Technologie Ambilight, image QLED fluide, un spectacle immersif à chaque instant.
Ah non, pas été merci bon. À Soulé Diawara, merci à Manu Petit, merci à Louis Gervais.
Allez, bon week-end.
Le direct, c'est le rugby. Les équipes A' de l'Angleterre et de la France qui s'affrontent à Vannes. Arnaud Valadon.
Un bon match.
Ça n'a pas bougé, toujours 16 points d'avance pour les Bleus à 6 minutes de la fin, 28-12.
Dans un instant, l'After Live rugby avec le grand Christophe Cessieux autour de la première demi-finale du top 14 au stade Toulousain Racing à Marseille.
Et
le grand Denis Charvet.
Et le grand Denis Charvet, ouais. Coup d'envoi 21h05.
Ah, qui a pas craché sur le Racing, son ancien club. Tout cas, nous, on se retrouve lundi. On vous laisse tranquille tout le week-end. Profitez de la Coupe du Monde. Profitez du rugby aussi. C'est les demi-finales du Top 14 aujourd'hui et demain. Et nous, lundi, on se retrouve. Et pourquoi ? Ça va être une grande émission exceptionnelle. C'est France-Irak lundi soir. Donc, on sera là. On vous lancera sur ce match. Vous saurez tout dans Rotten sans flamme à 18h. Passez un bon week-end. Merci Manu. Merci Soulé. Merci Louis. Et merci Benoît. Bon week-end à tous. On vous embrasse à lundi.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.